Et ma chère Lise, la question qu'on posait à nos auditeurs, bien sûr, c'était il y a déjà deux jours, mais avec l'actualité, évidemment, ça a été un petit peu bousculé, cette chronique, la question du jour. Mais la question était la suivante. Suivez-vous le concours Eurovision de la chanson, oui ou non? Alors, tendance chez nos auditeurs, Lise.
Eh ben, écoutez, c'est à se demander si on a eu raison de faire cette chronique, hein, Didier, parce qu'on est à 76% de non sur Facebook et 79% de non sur Insta. Donc, j'ai pas vraiment l'impression que l'Eurovision passionne nos auditeurs. Et donc, on va demander à notre expert qui, lui, est passionné un peu plus. Et pourtant, nous, ça nous amuse. Anthony Siget, bonjour.
Bonjour, Lise. Bonjour, Didier. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct de Liverpool. Alors, est-ce que vous êtes étonné par ces réponses? Est-ce qu'il y a une baisse de popularité du concours de l'Eurovision à vos yeux, plus globalement, Anthony?
Eh bien, les chiffres sont plutôt, vous direz plutôt le contraire. Par contre, c'est vrai qu'en Belgique, c'est assez connu que en Belgique francophone, que les audiences de l'Eurovision sont à la baisse et sont pas très fortes, ce qui est le contraire de ce qui se passe en Flandre. Mais oui, dans le monde francophone, en France, en Belgique, le concours est un peu considéré comme ringard et pas trop suivi. Ce qui est dommage parce que le concours a fort changé et continue d'attirer des énormes audiences dans le monde. On est à plus de 200 millions en général chaque année, 161 millions l'année passée. C'est une audience qui augmente chaque année en Europe et dans le monde, puisque ça se regarde de plus en plus même hors Europe. En général, dans les pays, c'est vrai, il y a des audiences qui frôlent, enfin, d'une moyenne globale, c'est à peu près 43% d'audience dans les marchés où on suit cette audience-là pour l'Eurovision. Mais oui, c'est vrai que dans les pays francophones, en tout cas, c'est en baisse et ce n'est pas aussi vu de manière aussi si positive.
En
contraste, pardon.
Non, bien. Vous allez au bout, le contraste, vous dites?
Le contraste, c'est les pays, par exemple, nordiques, où là, le record toujours, c'est en Islande, où c'est à peu près à 90% d'audience, donc ça, c'est imbattable.
Oui.
Et puis, ce sont les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, de 89-72%, donc des audiences énormes. Je vous dis, en Flandre, on arrive au-dessus de 50%, mais en Wallonie, c'est beaucoup plus bas.
Alors, justement, je voudrais revenir à un aspect plus conceptuel. Vous l'évoquiez à l'instant dans votre réponse, Anthony, vous disiez le concours a changé. Et effectivement, est-ce qu'on peut encore l'appeler le concours Eurovision de la chanson? Parce qu'on a presque l'impression que ce n'est plus tellement la chanson qui gagne l'Eurovision, c'est plutôt ou un groupe, ou le charisme de certains, ou le genre de certains, je pense, notamment à Wurtz qui avait gagné, la Conchita Wurtz qui avait gagné quelques années. On a l'impression que c'est devenu presque une vitrine de notre société et plus vraiment un concours de la chanson, puisqu'il y a des spectacles tout autour de cette chanson. Ça, c'est un premier volet de la question. Et donc, est-ce que vous avez cette sensation-là aussi, que ça perd un petit peu de son ADN d'une certaine manière?
Alors, vous avez tout à fait raison. En effet, chaque pays n'a que 3 minutes pour convaincre, donc il ne s'agit plus que de la chanson, mais évidemment d'une performance, du staging, qui pour moi est très important. La mise en scène des numéros est de plus en plus impressionnante. Vous allez voir certains numéros cette année qui sont vraiment splendides, visuellement, mais aussi qui vont vous faire souvenir de la chanson. C'est un peu ça le principal. On a 3 minutes pour convaincre, donc c'est vrai que de plus en plus, on fait tout pour convaincre les gens de manière, avec une chanson, donc de manière sonore, mais pas que. Vous avez entièrement raison, il s'agit vraiment d'un spectacle, mais ça rend les choses très intéressantes et très beaux et très agréables à regarder.
Alors, en parlant de spectacle, une candidate auquel on s'intéresse évidemment particulièrement, c'est Noah Kirel, qui représente Israël. Est-ce qu'elle a de vraies chances de gagner, Anthony?
Alors, de gagner cette année, pas vraiment. Pour être honnête, ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même des énormes concurrents. Elle n'est pas dans les favoris. Par contre, elle est dans les favoris pour arriver dans le top 10, qui est vraiment un peu le but pour les pays qui ne vont pas gagner. On essaie au moins d'avoir une bonne performance et d'arriver dans les 10 premiers. Ça, elle devrait peut-être probablement y arriver.
Oui.
Mais Gamille a très peu de chance. Cette année, la grande, grande, grande favorite,
c'est une
gagnante
suédoise.
Qui a déjà gagné. Exactement.
Ouais.
Et je vais vous donner un petit exemple c'est un peu du jamais vu. C'est qu'elle a 48% de chance de gagner d'après les bookmakers. Mmh. Et ça, c'est en première position. La deuxième, la Finlande, 20%. Donc l'écart est déjà énorme entre la première et la deuxième. Oui. Et puis le troisième, l'Ukraine, on est à 7%. Donc, je vous dis Israël pour l'instant. Alors, je vais rafraîchir mon serveur. On est à la position 6, donc elle a monté depuis hier soir. Donc, elle est en sixième position. Mm-hmm. Gagner, très peu de chance. Après, Noah Kirel n'a plus rien à prouver. C'est une grande star en Israël. C'est un des grands noms, comme ils l'ont dit à la BBC. C'est quand même des gens qui n'ont pas grand-chose à prouver. Donc elle a fait un beau spectacle, elle chante magnifique. La chanson passe souvent dans les l'Euroclub, dans les boîtes de nuit à l'Eurovision. Ça sera de nouveau ce qu'on appelle un fan favorite, un des favoris des fans. Et donc la chanson restera marquée dans l'histoire de l'Eurovision. Mais gagner l'Eurovision, très peu de chance.
Ouais. Alors Noah Kirel est monté sur scène, c'était seulement quelques heures après le lancement de l'opération militaire d'Israël à Gaza. Donc on a craint que l'attention négative dont elle fait l'objet n'affecte ses chances et sa performance, puisqu'on sait que l'Eurovision est toujours marquée par des votes très politisés, Anthony.
Alors ça, c'est un peu le grand débat. Il y a ce qu'on appelle, vous avez raison, le bloc voting, ou des votes par bloc. Mais en fait, il y a eu énormément d'études faites par les universitaires, par pas mal de statisticiens. En fait, on se rend compte que malgré ce qu'on appelle les bloc voting, le gagnant est toujours clair. C'est-à-dire que même si on enlève ces votes, le fameux 12 points entre Grèce et la Chypre, les fameux échanges de points entre les pays nordiques, même si on enlève ces points-là, le gagnant est toujours clair. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu frustrant et c'est un petit peu répétitif, mais on sait que le gagnant est toujours assez clair malgré ces votes de bloc.
Bien, justement, je voudrais revenir sur ces votes de bloc, justement, Anthony. Ça fait 20 ou 30 ans que c'est comme ça. On disait toujours que les pays satellites à l'époque, et même encore aujourd'hui, les anciens pays satellites donnent des points à la Russie qui donne des points. On a l'impression que chacun sert la soupe à l'autre. Et je prendrai un exemple qui est encore plus criant. C'est la Turquie qui donne des points à l'Arménie et vice-versa. Ou la Grèce qui donne des points à la Turquie. On sait que parfois les rapports sont un petit peu tendus. Ce n'est un secret pour personne. J'ai l'impression que le vote de l'année passée était un vote, l'Ukraine a gagné parce que dans le cœur de tout le monde, il fallait que l'Ukraine probablement se démarque un petit peu, comme il y a des sportifs, il n'y a pas que à l'Eurovision évidemment, on mettait plein de choses à l'Ukraine. Est-ce que ça ne fait pas perdre de la crédibilité à un vrai concours où normalement il n'y a que le sport pour ce qui concerne le sport et que l'artistique qui devrait prévaloir?
Alors ce qui s'est passé l'année passée, vous avez raison, est très clair. C'est un élan de sympathie de l'Europe pour l'Ukraine, mais de nouveau, ce n'est pas la faute du concours. Là, c'est la faute des publics qui ont voté, la faute, entre guillemets, parce que c'est clair que les jurés n'ont pas fait gagner l'Ukraine. Ça aurait été un peu plus flagrant si les jurés avaient fait rentrer l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu réintroduit les jurés pour éviter ce genre de problème. Et là, on s'est bien rendu compte que ce ne sont pas les jurés qui ont voté, mais c'est vraiment l'élan de soutien des audiences européennes qui a fait gagner l'Ukraine. Vous avez un peu raison. C'est vrai que ça a fait un peu perdre la crédibilité au concours, mais c'est quelque chose qui était tout à fait impossible à contrôler.
Et le candidat belge, Anthony Gustave, est-ce qu'il a des chances? J'ai lu qu'il était super loin dans le palmarès avec seulement 1% des chances de gagner.
Lui et de nombreux autres avec qui on a parlé, notamment pour la Suède, entre la Suède et la Finlande, les deux premiers, ils prennent 60% des chances de gagner. Donc c'est clair que tout le reste est beaucoup plus bas. Alors, la chanson a été très bien reçue. J'étais hier soir dans la salle pour la répétition générale. Vraiment, le public a adoré la chanson. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme support. Gagner, très peu de chances. Par contre, la qualification ce soir est quasi assurée. C'est une demi-finale beaucoup plus faible que celle de mardi, qui était beaucoup plus compliquée. Donc, il va se qualifier, ça c'est quasiment certain. Gagner, malheureusement, très peu de chance. Mais de nouveau, une chanson qui est très, très bien, bien cotée, que les gens aiment beaucoup. Et de nouveau, il a fait la surprise aussi à la présélection belge. Donc, qui sait, on pourrait être surpris ce soir et avec un meilleur résultat que prévu.
Alors, la carte postale Eurovision qui présentait Noah Kirel a été filmée à Masada, Anthony, et donc elle montre la chanteuse qui danse au sommet d'un monument historique magnifique et très symbolique du combat des Israéliens. Est-ce que ça a donné une bonne image d'Israël? Est-ce que ça a été bien perçu à votre avis?
Eh bien, j'ai mis eu aucune réaction sur les cartes postales. En général, c'est vrai que les grands fans et les journalistes se concentrent plus sur la performance que la carte postale. Moi, évidemment, sachant ce que c'est, je l'ai expliqué aux gens autour de moi. Mais oui, non, c'est vrai que les cartes postales sont assez spéciales cette année puisqu'il s'agit de montrer le même concept en Ukraine, au Royaume-Uni et dans le pays qui va chanter. Donc c'est assez intéressant de voir pas mal de choses se superposer. Mais non, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Mais c'est vrai que pour la communauté juive, ça fera énormément, ça touchera les gens d'une autre manière.
Bien, Anthony, une question un petit peu piège, ou en tout cas pied dans le plat, je vais dire. On en a parlé dans les médias belges, je ne sais pas si vous les suivez d'où vous êtes. Je rappelle que vous êtes à Liverpool et en direct avec nous, merci encore. En Belgique, il y a eu une polémique qui a été mise en place par Yves Bigot, l'ex-PDG de la RTBF, qui a mis les pieds dans le plat en disant que le concours Eurovision coûte tellement d'argent que certains pays aujourd'hui envoient volontairement des gens qui n'ont aucune chance de gagner, mais on dit que l'important c'est de participer. Et il a dit pire, il a dit que lorsque Sandra Kim avait gagné l'Eurovision, il y avait 2000 personnes qui avaient perdu leur emploi à cause de cela, puisque le concours avait dû être organisé par la télévision locale l'année suivante à Bruxelles, que ça coûtait beaucoup d'argent. Enfin bref, est-ce que c'est de l'info, c'est de l'intox, c'est de votre point de vue, c'est du populisme à deux balles?
Alors, pour moi, c'est un peu une excuse qu'on donne souvent en France et en Belgique, mais il y a tellement de pays qui essaient de gagner par tous les moyens parce qu'on sait les retombées économiques que ça peut faire pour une ville haute. Liverpool a mis toute sa ville la couleur jaune et du concours. Ils vont avoir 20 000 personnes qui vont venir pendant une semaine au moins avec des restaurants, des taxis, enfin, les transports, tout. Donc, il y a des retombées économiques énormes. Ça coûte très très cher. Il ne faut pas oublier que l'Eurovision, c'est quand même l'émission non sportive la plus regardée au monde. Donc, c'est vrai que ça coûte très cher à organiser, mais ça rapporte aussi beaucoup. Donc, je pense que c'est un petit peu une excuse que certains pays se donnent, parce que quand même, il y a quand même, quand on voit les pays nordiques, et qui font tout pour gagner, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont récupérer leur mise.
C'est vrai. Lisa, dites-nous.
Pour finir rapidement, Anthony, pour la première fois, les résidents des pays qui participent pas vont pouvoir voter par l'application Eurovision ou par le site web. Et tous les votes des pays non membres vont être comptabilisés ensemble comme un seul pays supplémentaire. Est-ce que ça peut changer la donne par rapport à d'habitude?
Ça peut uniquement changer la donne parce qu'en fait, il n'y aura pas de compensation d'un jury. La plupart des pays ont et un jury et un télévote, tandis que pour le reste du monde, c'est que le jury. Donc ça peut éventuellement favoriser certaines chansons un peu plus, on va dire, légères ou avec moins de qualité. C'est la seule influence. Après, il y a quand même, je sais plus combien de pays vont voter cette année de mémoire, mais il y a tellement de pays que je ne vois pas que ça va avoir une autre influence à part celle-là.
Merci beaucoup, Anthony Siger, pour votre expertise. Évidemment, nous, notre cœur est avec Noah Kirel. J'aurais bien dit qu'il était aussi avec le Belge, mais à 1% de chance, j'avoue que je vais donner tous mes encouragements à Noah Kirel. Je rappelle que vous étiez en direct de Liverpool. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, bonne journée.